On va commencer Bezrat Hashem, notre deuxième cours, sur le premier chapitre de Shaar Eichud Ve'Emunah. Nous sommes à la page 29. Le thème qu'on a commencé la semaine dernière, page 29. Le thème qu'on a commencé la semaine dernière, c'est la question de se poser, qu'est-ce que veut dire le verset Le'olam Hashem Dvarcha Nitzav Vashamaim. Pour toujours, Hashem, ta parole se trouve dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. On a expliqué la chose suivante, mais on va développer ça aujourd'hui, c'est juste le début de la réponse. On a expliqué qu'en fait, de quelle parole on parle? On parle de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque Akadosh Baruch Hu a dit le premier jour de la création, que la lumière soit. Cette parole d'Hachem, que la lumière soit, est la parole qui continue à générer à chaque seconde, jusqu'à maintenant, la lumière. C'est le chidouch. Et c'est ça va être le fil conducteur, bon après les vacances si Dieu veut, de Shaar Eichud Ve'Emunah, d'expliquer comment l'énergie divine ne peut pas s'arrêter. Il y a des gens qui pensent, c'est une erreur. Il y a des gens qui pensent, ils disent non. Nous on pense, Dieu il a créé le monde, une fois qu'il a créé, après, s'il veut, il peut intervenir, mais il tourne.
Oui, c'est
d'accord. Beaucoup de gens pensent comme ça.
Comme une machine, quoi.
Comme une machine. Comme une machine, t'as un créateur qui a créé cette bouteille, d'accord. Il l'a rempli avec de l'eau, il l'a laissé, maintenant s'il veut, il peut la vider, mais maintenant elle tourne, elle est là, la bouteille, elle est là. Beaucoup de gens voient un peu le monde, la relation entre Dieu et le monde comme ça. Que Dieu a créé le monde. Bien sûr, c'est le patron, il peut intervenir quand il veut. Mais bon, entre-temps, le monde, il est là. Oui. Réponse de la Chassidoute, réponse du Zohar, réponse de la Kabbalah. Non. C'est faux. La parole d'Hachem continue à générer le monde chaque seconde.
Mais c'est sûr qu'on dit une parole peut générer ça, je comprends.
Justement. C'est que la parole d'Hachem, Bidvar Hachem, Shamaim Naasu. Par la parole d'Hachem, les cieux ont été créés. Mm-hmm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu est créatrice. Et cette parole est constante. L'impact de cette parole est constant. Concrètement, comment ça marche? On va rentrer dans les détails aujourd'hui. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, cette énergie divine de la parole qui dit que la lumière soit, c'est ce qui fait que jusqu'aujourd'hui on a la lumière. C'est-à-dire si aujourd'hui on a la lumière, c'est encore la suite de l'énergie divine du premier jour qui a dit que la lumière soit. C'est la suite de cette énergie. C'est un impact constant. Bon, alors ça encore, ça pourrait marcher encore, éventuellement, ça marche, pour tout ce qui est écrit dans la Parasha Bereshit. Parasha Bereshit, c'est pas très long. Il y a, je crois, 620 mots, si je ne me trompe pas, du Rishon jusqu'au Sheni. On te raconte la création du monde.
C'est une parole. Une seule parole qui continue, sans fin.
Oui.
Ou c'est une parole qui se répète sans fin.
C'est une parole qui se répète sans fin, qui se renouvelle sans fin.
Donc ça veut dire que...
Que Dieu renouvelle le monde à chaque seconde.
Donc ça veut dire que quand dans Bereshit il dit que la lumière soit, cette bracha, elle se répète à chaque instant.
Ouais. Chaque seconde. C'est un peu comme, je pourrais peut-être donner un exemple, mais c'est pas exactement la même chose, comme l'électricité. D'accord. Si tu as du courant qui arrive ici, c'est qu'il y a du courant qui vient de quelque part. Ça n'existe pas du courant qui vient d'ici qui ne va pas nulle part. Si on arrête à la centrale, ça s'arrête ici.
Donc c'est une bracha perpétuelle.
Constante. Qui est renouvelée, régénérée chaque seconde.
Ok, donc on a fait sur
avec une parole. Alors ça encore, ça marche pour les choses qui sont écrites dans la parasha Bereshit. Très bien. Dans la parasha Bereshit, par exemple, c'est écrit la lumière. Donc la lumière d'aujourd'hui, elle est générée par cette bracha. Ensuite, Hachem, il a parlé de l'eau. Donc l'eau d'aujourd'hui, l'eau que j'ai devant moi, elle est générée aussi de l'énergie divine du deuxième jour qui a dit dans lequel on va séparer l'eau, etc. Ok, pourquoi pas. Dans la parasha Bereshit, il y a pas mal de choses. On va parler des animaux. Certains animaux. On va parler des poissons. Mais après, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la parasha Bereshit. Par exemple, le mot pierre. La pierre. C'est pas écrit dans la parasha Bereshit. Alors quand j'ai une pierre devant moi, d'où elle vient cette pierre? Mais c'est pas écrit dans Bereshit. Parce que tu viens de me dire que chaque chose qui existe ici devant moi, elle doit avoir une origine dans l'énergie divine. Donc, il faut trouver quelque part dans Bereshit où c'est écrit.
Avec que Bereshit, c'est pas
très clair. Est-ce que vous comprenez pourquoi je pose cette question? Si on avait dit que Dieu il a créé le monde, ça fait 5779 ans, et qu'après le monde tourne, et qu'après, passe-moi un épisode pour monsieur, et qu'après on pose pas de questions, bon, très bien, c'est une chose. Ça marche. Page 29. Mais si on dit que Dieu renouvelle le monde à chaque seconde et que la parole est constante, ça veut dire que la bouteille d'eau que j'ai devant moi, chaque chose que j'ai devant moi, doit avoir une énergie.
Jean-Michel.
Ah ouais. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans Bereshit. Devant moi, j'ai un gâteau avec du chocolat. D'où vient le gâteau?
De la terre.
De la terre. Non, mais d'où vient le gâteau?
Du
blé. Ah oui, oui, oui.
C'est quoi? C'est un gâteau à base de quoi?
De blé.
Oui, de blé. Est-ce que le mot blé est écrit dans la paracha Bereshit?
Non.
Non, il n'est pas écrit.
Il parle de la terre, par contre, non?
J'ai du chocolat devant moi.
Il vient de la permutation.
Est-ce que le mot chocolat est écrit dans la paracha Bereshit? Non plus. J'ai devant moi du plastique.
Du pétrole.
Est-ce que le mot pétrole est écrit dans la paracha Bereshit? Non.
La planète est remplie, les choses ne sont pas écrites.
Très bien. Alors d'où ils viennent? C'est quoi leur origine?
Métaux et minéraux.
Ça veut dire, c'est pas seulement quelle est leur origine. Quelle est l'énergie divine qui les génère? Parce que si tu prends une théorie comme la théorie de l'évolution, c'est pas compliqué. On te dit, Dieu ou je ne sais qui a créé une matière première, et après cette matière première a évolué d'elle-même. Donc quand tu pars de cette base, bah, tu dis ça ne me dérange pas de partir de ça et d'arriver à des milliards de milliards de milliards d'éléments, ça ne me dérange pas, parce que je sais que je suis parti de ça. Mais la Torah te dit c'est faux. Elle te dit les milliards d'éléments que tu as autour de toi sont générés à l'instant où je te parle par Hachem. Donc il faut un conduit pour les générer, il faut une énergie divine, il faut une adresse, il faut une combinaison, il faut quelque chose. C'est là qu'on va expliquer aujourd'hui. D'accord ? Alors regardez. Vechen. On va tourner la page. Je dis page 29, mais en vérité, c'est page 30. Donc, c'est juste en haut de la page. Vechen, pareil. Bechol abirouim, shibechol olamot elohim vetartonim. Tous les êtres créés dans tous les mondes supérieurs et inférieurs. Et même cette terre matérielle, et vraiment la terre inerte, ça veut dire on va prendre la terre. Dans chaque chose, il y a une énergie divine. Et si se retirer d'elle ne serait-ce qu'un seul instant, à ce que Dieu ne plaise, les lettres des 10 paroles par lesquelles la terre fut créée lors des jours de la création, elle retournerait au néant absolu, comme avant les jours de la création, vraiment. Ça veut dire, c'est très clair ce qu'on entend dire ici. Chaque chose, chaque créature, chaque être, chaque détail de ce monde est généré par la parole d'Hachem, la parole qui vient des Asara Ma'amarot. Asara Ma'amarot, ce sont les 10 paroles avec lesquelles Hachem a créé le monde. Et si Hachem venait à arrêter de parler, parce qu'Hachem n'arrête pas de parler.
Mais c'est vraiment, sans arrêt.
C'est une parole constante.
Quoi, il passe sa vie.
Non.
Ah oui, tu dis pas sans arrêt.
Non, tu n'as pas compris. C'est que toi, ta parole.
Il passe sa vie à parler.
J'ai compris ta question. C'est pas une pipette,
Hachem. Non, mais c'est d'accord, il passe sa vie à répéter.
Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Non, justement. Moi, quand je parle.
Dans le langage des hommes.
Moi, quand je parle, ma parole s'arrête.
Oui.
Ma capacité de parler ne s'arrête pas. Je peux parler toute la journée. Mais la parole que j'ai dit, je dis ah, j'ai arrêté, le A c'est arrêté. Oui. Mais Hachem, c'est pas comme ça. Hachem, il fait ah, c'est fini, le A il reste à la fin. Tant qu'il l'arrête pas, il continue.
Comme un écho, ça.
Non, mais c'est pas comme. Même un écho, il a une fin.
Oui.
Il a une fin, l'écho. C'est-à-dire, dès que tu arrives devant. Devant quelque chose qui absorbe, il s'arrête. Ou bien dès que l'espace est trop grand, il s'arrête. Ok ? Mais Hachem, c'est pas comme ça. D'abord, quand on parle de parole d'Hachem, c'est pas la parole comme nous on connaît.
Ah
ouais,
d'accord.
La parole, c'est une image pour dire qu'Hachem, il a dit quelque chose. Il a eu une énergie, il a généré une énergie. Et cette énergie est créatrice, jusqu'à maintenant. Elle s'arrête pas.
D'accord.
Ok. Ce qu'il dit ici. Maintenant, il va très loin. Il te dit que toutes les créatures qu'il y a dans ce monde, même les plus inertes, les créatures qui nous ont l'air mortes. Je prends devant moi, j'ai un sol. Il est mort, il bouge pas.
Bien sûr.
D'accord. Je veux bien comprendre que c'est vrai qu'il y a une énergie dans un être humain. Bon. Dans un animal. Bon. Dans un poisson. Bon. Dans une fleur. D'accord. Dans une racine qui bouge. Ok, je veux bien. Mais la terre. Il n'y a rien, elle bouge pas. T'as dit non. Tu dis, il n'y a pas une chose dans le monde qui n'est pas générée à chaque seconde par l'énergie divine. Et si l'énergie divine s'arrêtait, ne serait-ce qu'un seul instant, à la seconde même, cette chose cesserait d'exister. Parce que la parole de Dieu est créatrice. Et donc, dès qu'on arrête...
L'espace, l'espace qui n'a pas d'énergie est une énergie.
L'espace qui...
N'a pas l'espace. L'espace, au-dessus de la Terre.
Mais l'espace est une création d'Hachem aussi.
D'accord. Qui n'a pas d'énergie est une énergie.
Pourquoi savoir qu'il n'a pas d'énergie ?
Il
n'y a rien qui n'a pas d'énergie. Parce que je comprends ta question. Parce que toi, tu associes, et c'est, je comprends ta question, tu associes l'énergie à un mouvement.
Ou à un état.
Ou à un état.
Oui. Ou à quelque chose de matériel.
J'ai compris. Ou à un objet. C'est faux. L'énergie n'est pas un mouvement. L'énergie est une énergie divine qui fait que la chose existe. Parce que si ça existe, c'est que forcément il y a quelqu'un qui le fait exister à l'instant même. C'est tout. Même s'il est inerte. Alors ça, vous allez voir, ça vous a l'air simple ce qu'on est en train de dire. En vérité, plus on va avancer, plus on va comprendre que c'est pas simple du tout. Et bon, la Moura Zaka va nous donner les outils pour comprendre. Et on a le temps, on est pas au Khachem. Oui, mais ce qui veut dire, c'est qu'il y a des choses qui ont l'air inertes.
Oui,
qui ont l'air mortes.
C'est...
Qui ont l'air mortes.
L'espace n'a rien à
voir. Mais en vérité, c'est
il y a,
comme...
Il y a les météorites.
Oui, mais je vais donner un exemple concret. Prends par exemple un être humain. Non, je vais donner un exemple concret. Un être humain qui était vivant. On va pas parler d'un être humain, on va parler d'un animal. Un animal qui était vivant. Ok. Et il est mort. Quelle est la différence entre le stade vivant et mort ?
Il ne bouge plus.
Ah, mais même s'il ne bouge plus, il est là encore.
Oui, il n'y a plus.
Là, oui, il y a plus. Mais comment tu définis la vie ? Comment tu définis la vie ?
Vie,
ça veut dire qu'il bouge. Donc tu dis, il ne bouge plus, donc il ne vit plus. Mais il est là toujours.
Ah oui, bien sûr.
Et il sera là pour l'éternité.
Oui, il va se décomposer.
Ouais. Non, mais il va se décomposer. Ça veut dire quoi, il va se décomposer ? Ça veut dire que les éléments qu'il y a ici, ils vont aller dans d'autres endroits. Comment il dit ? Rien ne se perd,
tout se transforme.
Rien ne se crée, tout se transforme. Il y a rien, on peut pas faire disparaître quelque chose. Personne peut faire disparaître. Tu peux pas faire disparaître. Donc même si
corps,
tu brûles quelque chose.
Un corps qui est parti, qui peut quitter ce monde.
Il a pas quitté ce monde, il s'est transformé.
Oui, il va décomposer.
Tant qu'il est devenu de la terre, il n'est pas disparu, il est devenu de la terre.
Ah oui, c'est toi qui se transforme.
Mais on peut pas quitter. Ça n'existe pas. Disparaître, ça n'existe pas. On peut pas disparaître. Eh oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, alors revenons à notre histoire. Donc on va essayer d'expliquer, en fait, le but ici de l'Admor HaZaken, c'est d'expliquer qu'il n'y a pas une chose dans le monde qui est indépendante. Voilà où il veut nous amener. Quand même la plus petite pierre que tu puisses trouver n'est pas indépendante. Si elle est là, à l'instant où je te parle, devant toi, c'est que cette pierre est générée maintenant par Hachem. Et si Hachem ne voulait pas qu'elle soit là, il suffisait simplement qu'il arrête de parler. Qu'il arrête de dire pierre, 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 cette pierre serait existée. Seulement, c'est très compliqué ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que Dieu est en train de générer chaque chose à chaque seconde. Nous, on voyait pas le monde comme ça. Et encore une fois, ce que je vous disais, c'est que ceux qui croient en la théorie de l'évolution, qui est une bêtise évidemment, ceux qui croient en cette théorie, ils n'ont pas de problème. Parce qu'ils te disent, moi j'ai un élément de base, et après, il va évoluer, et après on ne contrôle plus. Mais la Torah te dit non, c'est une erreur quand c'est comme ça. Celui qui dit ça est un renégat de dire ça. C'est un renégat celui qui pense qu'il y a une évolution et qu'après ça tombe tout seul. Non! Hachem renouvelle le monde à chaque seconde et chaque détail du monde. Alors, et tout est écrit dans Bereshit. C'est pour ça que vous voyez les plus grands kabbalistes, les plus grands tzadikim, ils te disent tout est écrit dans Bereshit. Bon, moi je suis écrit dans Bereshit. Oui, on va voir. Ma main est écrite dans Bereshit, mes yeux sont écrits dans Bereshit, mon téléphone est écrit dans Bereshit, le verre est écrit, tout est écrit dans Bereshit. Mais comment? Bereshit c'est tout petit. En plus, même pas, c'est de Rishon à Sheni de Bereshit. C'est une colonne et demie du Sefer Torah. C'est walou, c'est rien du tout. C'est quelques centaines de mots. C'est rien. Comment dans ça tout est écrit ? Comment c'est possible ?
C'est les combinaisons de lettres.
Ah, non. Donc il faut qu'on arrive à la notion des combinaisons. Oui, mais attention, on va expliquer.
Il y a un mot qui veut dire la généralité, que tu vas créer le monde dans le monde.
Avec les compatriotes.
Non, c'est pas bon. Ah. Tu ne peux pas dire ça. Parce que si tu dis ça, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il a généré une énergie et après ça se débrouille.
Ah, oui.
Or, il n'y a rien qui est seul. Chaque détail est écrit.
Chaque microbe.
Il n'y a rien qui existe dans ce monde qui n'est pas écrit dans Bereshit.
Même tes cheveux gris,
chaque atome de ce monde est écrit dans Bereshit depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Donc c'est impossible. Vous savez, juste par exemple, dans un verre comme ça, il y a combien d'atomes ?
Milliards.
Même si je prends le verre, dans la bordure du verre, il y a combien d'atomes ? C'est estimé en dizaines, en centaines, en milliers de milliards. C'est énorme.
Et chaque atome,
chaque détail de ce monde est écrit dans la suite. Alors comment ça marche ? On va développer. Zéou, Shekata, Varizal. Zeush Amar Arizal, c'est ce que l'Arizal a dit. Je suis en bas de la page 30. Chez Gambe et Dome, Mamash Kemavani va Farumaïm, que même dans la matière inerte vraiment, que nous on appelle inerte, que mot par comme Avanim, Veafar ou Maïm, comme les pierres et la poussière, de l'eau, Yesh Prinat Nefesh Vachoyd Ruchanit, il y a une forme d'âme et de vie spirituelle. Il n'y a rien, dit le Arizal, dans ce monde qui n'a pas de vie. Même la chose la plus inerte qui est l'air a une vie. C'est quoi la vie? Ce minéral que tu vois devant toi a en lui, vont s'habiller en lui les lettres des 10 paroles d'Hachem, des 10 paroles de la création, parce que Hachem a parlé en 10 fois à la création, qui donne vie à cet élément qui est devant moi. Liot, yesh mi ayn ve efesh chez lifne shetime bereshit, d'accord? De sorte que vienne l'existence du rien et du néant qui précédait les 6 jours avant la création. Parce qu'avant les 6 jours de la création, il y avait du néant. Le néant, c'est... je peux même pas appeler le néant vide. Parce que le vide, c'est de l'espace. Or, l'espace, c'est une création. Donc, comment on peut définir le néant? On peut pas le définir.
Chez nous.
Parce que l'être humain est conçu pour tout définir par le temps et par l'espace. Donc, je peux pas m'imaginer quelque chose qui n'est pas dans les limites de l'espace. Je peux m'imaginer quelque chose de plein, quelque chose de vide, mais le vide est un espace aussi. Le vide est quantifiable. Je peux dire, ben voilà, j'ai un kilomètre de vide. Exactement. Là, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit non. On te dit que chaque chose qu'il y a chez Akadosh Baruch Hu, chaque chose qu'il y a dans ce monde, Akadosh Baruch Hu le renouvelle à chaque seconde. Bon. Maintenant, on a le problème. C'est pas écrit dans Bereshit. Et c'est là où je vais l'arriver aujourd'hui. On va passer à l'étude du 8 Sivan, page 31. Là, on va rentrer dans les mots. Bien que le mot pierre n'ait pas écrit et mentionné clairement dans les 10 paroles de la Torah, donc là j'ai un problème. Je dis, ça me dérange pas ce que tu me dis. Je comprends. C'est bien. Ce que tu m'as dit est intéressant. Tu m'as dit, d'accord, ce que tu m'as dit est intéressant. Tu m'as dit que bon, que l'énergie divine des 10 paroles de la création se trouve partout. Mais concrètement, le mot pierre n'est pas écrit dans les 10 paroles. Donc s'il n'est pas écrit, d'où il est généré? Qui le génère? Comment il le génère? Comment il est écrit dans Bereshit? Alors, j'aurais pu vous répondre. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Vous êtes avec moi. J'aurais pu dire, bon, c'est les secrets de la Torah.
Oui, c'est ça.
C'est les secrets. Hein? Bon, c'est les secrets. C'est dans le Zohar. C'est dans les secrets de la Torah.
On veut savoir maintenant.
Je te dis non. C'est tout est écrit dans Bereshit.
Clairement.
Ça, j'ai pas dit.
Pas clairement.
J'ai dit, c'est écrit. J'ai pas dit comment c'est écrit.
Est-ce qu'il y a pas écrit?
Mais c'est écrit.
Et on comprend...
Alors, je pourrais pas vous dire, d'ailleurs je le sais pas moi-même, je pourrais pas vous dire comment c'est écrit. Mais ce que je pourrais vous donner, c'est les méthodes. Ça veut dire les différentes méthodes de combinaison qu'on a. Après, quelle combinaison correspond exactement à quelle lettre? Quelle combinaison correspond exactement à quelle pierre? Ça, je ne sais pas. Mais on va nous donner les différentes combinaisons possibles. J'espère que vous êtes mathématicien parce qu'aujourd'hui on va y aller. Vous allez voir que la calculatrice de votre iPhone ne va pas suivre. Et même un super calculateur ne pourra pas suivre. On va faire ensemble les calculs. Les calculs des combinaisons possibles. Parce que n'oubliez pas, on doit expliquer que chaque pierre, chaque élément de ce monde a son origine dans la paracha Bereshit.
Et puis on vous donne comment on
dit. Maintenant, il y a les énergies constantes. Attendez, je vais aller, on va peut-être simplifier un peu les choses. Il y a les énergies constantes. Par exemple, j'ai devant moi un gâteau. Ce gâteau, on va prendre le blé qu'il y a dedans. D'où vient ce blé?
De la terre.
D'où vient ce blé?
D'un épi de blé.
D'un épi de blé. D'où vient cet épi de blé?
De la terre. Enfin,
oui, mais je comprends, mais il vient
une graine.
D'une graine qui a été plantée. Cette graine, d'où elle vient? Elle vient. D'une graine.
Première,
donc, donc voilà, donc en fait, je peux remonter l'énergie de la première. C'est déjà pas mal.
Oui, c'est énorme.
Oui, non, mais très bien. Mais ça veut dire que déjà, c'est vrai qu'il y a un aspect individuel et unique dans ce grain de blé qu'il y a devant moi. Mais d'un autre côté, je peux retracer cette énergie jusqu'à la création. Moi, je sais pas le faire. Mais ceux qui savent le faire peuvent le faire. Et on retrace. Donc on peut retrouver l'énergie. Mais quand même, il faut quand même retrouver chaque parcelle de ce monde. C'est pas rien, c'est compliqué. Alors on va voir. Bien que le mot pierre, page 31, n'ait pas été mentionné dans les 10 paroles de la Torah, Afalpiken quand même, Nimshach chayut le'even, la vitalité coule vers la pierre. À l'aide de tsirufim vechilufim otiyad, par le biais des combinaisons et des substitutions de lettres. Alors là, il faut que je vous explique un petit peu. Ceux qui aiment les gématria vont être servis aujourd'hui. Alors, d'abord, on a ce qu'on appelle, donc ici, il parle de combinaison et de substitution. C'est pas la même chose. De lettres. Ok? Alors, on prend un exemple. D'abord, on est là-dessous de gématria. Est-ce que vous savez ce que c'est la gématria? Valeur numérique. Ça veut dire que, par exemple, on peut retrouver dans la paracha Bereshit un mot qui a la valeur numérique de Even. C'est quoi la valeur numérique de Even? Aleph 1, Bet 2, Nun 50. Ça fait
53.
Donc déjà, ça pourrait simplifier les choses. Je peux retrouver un mot dans la paracha Bereshit qui a la valeur numérique de 53. Et ce mot serait de façon interposée, de façon indirecte, la source de l'énergie divine pour la pierre. C'est-à-dire que chaque mot dans Bereshit a une origine claire, a une énergie claire et une énergie indirecte. Une énergie directe et une énergie indirecte. L'énergie directe, c'est ce qui est écrit. C'est écrit or, or, c'est or. Or, c'est la lumière. Maintenant, or, c'est la valeur numérique de Aleph Vavresh, 207. 207, c'est aussi la valeur numérique de Raz, secret. Donc, ça veut dire que chaque mot qui est dans Bereshit, tu peux le voir en direct et tu peux le voir en indirect. Et la gimatria va lui donner autre chose. Alors, on peut aller très loin avec ça. Par exemple, j'ai devant moi quelque chose qui s'appelle Kos. Kos, c'est un verre. Valeur numérique de Kos, c'est combien? 86. Il faudrait peut-être chercher dans la paracha Bereshit un mot qui a la valeur numérique de 86. Mais j'ai pas fini, c'est que le début, c'est du gâteau, ça, c'est rien du 12. Hein. On va aller plus loin. On a aussi les notions de tsirufim. D'accord? C'est quoi tsirufim? Tsirufim, c'est qu'on peut en fait associer, on peut combiner des lettres de différents mots. Par exemple, le mot even. Comment on écrit even en hébreu? Aleph, bet, nun. Trois lettres. D'où je vais les prendre, ces trois lettres? Ben, le Aleph, je peux le prendre du Aleph de Bereshit. Bereshit écrit avec un Aleph. Le Bet de Even, je peux le prendre de Esev, la verdure. Et le Nun, je peux le prendre de Rishon, le premier. C'est-à-dire qu'en fait, je peux prendre les lettres dans différents mots. Ah oui, non, on va pas ça. Allez, je peux finir. Ouais. Ensuite, je vais aller encore plus compliqué. On peut échanger les lettres. Parce que, selon l'origine de chaque lettre, vous savez que les lettres de la lettre Bet se découpent en 5 groupes. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière. 5 groupes. Donc, par exemple, on sait par exemple qu'il y a les lettres gutturales. Les lettres gutturales, on a Aleph, He, Chet, Ain. D'accord? On a les lettres gutturales, on a les lettres qui viennent du palais, on a, enfin, etc., etc. On a plusieurs catégories de lettres. Et dans ces 5 groupes de lettres, chacune peut s'interchanger avec l'autre. Donc, par exemple, si on arrivait à trouver un mot dans lequel il y a, au lieu du Aleph, un He, ça passe. Encore une fois, c'est-à-dire que mon mot Even, je peux le prendre une lettre de ce mot, une lettre de ce mot, une lettre de ce mot. Attends deux secondes. Et en plus, je suis même pas obligé de trouver un Aleph, un Bet et un Nun. Je peux trouver une autre lettre qui est du même groupe.
Ah oui.
Ah non, ça complique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des échanges de lettres.
Ça complique pas, ça facilite.
D'accord? Des échanges de lettres. Pourquoi? Parce que par exemple, il y a des lettres qui... J'attends pas de vous de retenir tout ce que je dis. Hein. Ouais, mais je vous montre à quel point c'est complexe. D'accord? Il y a des échanges de lettres. Par exemple, il y a une façon de calcul qui dit Aleph est égal à Tav. C'est-à-dire on prend la première lettre de l'Aleph Bet est égale à la dernière. Il y a des codes comme ça. La deuxième est égale à l'avant-dernière. Alors donc voilà, Aleph est égal à Tav. Bet est égal à Shin. D'accord?
Et d'où on se permet tout ça?
C'est des choses qui sont écrites dans le Sefer Yetzira, etc. Depuis le début, c'est prévu ça. C'est pas, on n'a pas inventé. On peut pas ça avec ABC.
Bien sûr.
On peut pas ça avec ABC. On dit pas A est égal à Z.
La source de cette.
On n'est pas. Il faut bien comprendre. Je me rappelle quand on était enfant, on avait les cahiers de vacances. Les cahiers de vacances, il y avait des jeux comme ça. Tu vois, A est égal à Z, B est égal à Y, etc. Ça, c'est pour des jeux. Mais là, on n'est pas en train de jouer. Là. C'est sérieux.
C'est ça.
Oui. Ça, on te dit qu'il y a des façons de compter comme ça, Aleph, etc. Aleph est égal à Tav est égal à Chine.
La source c'est le Zohar, c'est ça?
Oui. La source c'est le Zohar, c'est Sefer Yetzira, le livre de la création du monde, qui revient depuis. C'est un livre qui a été écrit par Adam Harishon.
Ah
oui. Oui. C'est un livre qu'on dit que personne ne pouvait comprendre. Même chez les maîtres, il y a très peu de personnes qui pouvaient comprendre. On l'a caché. C'est un livre qu'on. La Gemara en parle. Moshe il en a parlé, Abraham il en a parlé.
Si ça a été écrit, c'est pas ça que je comprends.
seules les personnes habilitées à comprendre peuvent le comprendre.
Il y a des gens qui peuvent le comprendre.
Bien sûr. On l'a, c'est un livre qu'on a, aujourd'hui on l'a ce livre. Oui, on l'a, cherchez sur Google, c'est Ferit Sira, vous allez trouver. Vous allez rien comprendre. Enfin, si, vous allez comprendre la coupe, première couche. En fait, les secrets du monde qui est là-bas. Voilà, c'est un exemple. Ça, le cours d'aujourd'hui, c'est un exemple. C'est on te montre que toi, tu vas lire la paracha Bereshit, pourtant, on t'a raconté une histoire. L'histoire a duré une page et demie, elle est terminée. Premier jour, t'as que la lumière, ça. La lumière, premier jour, là, finito. Tu dis non, finito. Tu reviens, tu recommences. Sache que chaque lettre de cette paracha Bereshit a une énergie. Et la combinaison des différentes énergies de chaque lettre va me donner différentes choses. Alors là, on a plein de techniques. On a quatre techniques différentes que j'utilise aujourd'hui. Je vais les faire dans le désordre. Première technique, c'est d'abord l'association. C'est-à-dire, je prends une lettre de là, une lettre de là, une lettre de là. Donc là, déjà, j'ai ouvert toutes sortes de combinaisons. Si je prends une lettre du premier mot de Bereshit, une deuxième lettre du milieu, une deuxième, je peux faire ce que je veux. Je ne suis pas limité à un mot. Okay. Deuxièmement, je peux échanger les lettres. Échanger les lettres selon c'est une des méthodes selon guttural, etc. Troisième chose, je peux échanger les lettres elles-mêmes par Aleph est égal à Tav, Bet est égal à Shin. Et quatrièmement, je peux faire la gimatria. Maintenant, même dans la gimatria, il y a plusieurs types de gimatria. Oui, bien sûr. Parce que dans une gimatria, c'est la gimatria avec le kollel, sans le kollel. D'abord, par exemple, la valeur numérique du mot even, tout à l'heure on a dit c'est 53. Très bien. Mais le mot even en soi, il compte pour 1 aussi. Donc ça fait 54. C'est une façon de compter aussi. Je vais aller plus loin. Comment t'écris Even? Aleph, Bet, Nun. Alors, moi j'ai compté Aleph est égal à 1, Bet est égal à 2, Nun est égal à 50. Mais si je comptais le Aleph entier, ça veut dire Aleph, Bet, Yud, Tav, Nun, Vav, Nun, tel qu'il se prononce. Donc là, Aleph, comment j'écris Aleph? Aleph, Lamed, P. Ça fait 1 plus 30 plus 80. Ça fait combien? 101. Ok. Ensuite. Aleph, Lamed, plus 1 plus.
80.
Oui, exactement. 111. Ensuite, Lamed, 30 plus 40 plus 4. 74. D'accord, donc 111.
114.
Ça fait 185. Ok. Maintenant, Nun. Nun, Vav, Nun. 50. 6, 50. 106. Donc on a combien? 185 plus 106. Ça fait 291. Donc là, je cherche plus 50. Là, je cherche plus combien j'étais. Là, je cherche plus 53. Je cherche 291. C'est pas la même chose.
Là, t'as que le Aleph là.
Là oui. Non, j'ai pris Aleph, Bet, Aleph.
Oui, il a dit le Aleph.
Aleph, Bet, Nun. Et je peux trouver ça aussi.
Non, il a fait Aleph, Bet, Nun.
Ok. Maintenant,
du mot avec trois lettres.
Non.
Maintenant, pour vous compliquer les choses, c'est ce qu'il nous dit ici. Là, je vous ai donné quatre méthodes.
Il a dit une lettre, une lettre, une lettre.
Ok.
Première, c'est
quatre méthodes.
Aleph, ça c'est Aleph.
Maintenant,
la deuxième, c'est.
Ça vous dérange pas, en fait.
Mais non, on est pas d'accord sur le.
On revient. Hein? Là, je vous ai donné combien de méthodes? Je vous ai donné quatre méthodes. Maintenant, sachez que dans la méthode des tirs, ce qu'on appelle les tirs, la première méthode que je vous ai donnée, à savoir qu'on peut prendre une lettre de là, une lettre de là, une lettre de là, il y a 231 méthodes comme ça.
Vous croyez savoir finalement sur.
Voilà.
Bah non.
Donc vous comprenez.
Non, mais ça veut dire que donc on soit dire Ferrari, Lamborghini.
Ah non, mais ça, voilà, non, mais Pierre, ça veut dire que là, regardez, c'est-à-dire déjà je peux prendre les mots d'où je veux.
Oui, ça.
D'accord, les lettres d'où je veux. En plus. Comme on a dit, je peux les combiner comme je veux. Je peux les échanger comme je veux. Pas comme je veux, comme Dieu il veut. Et en plus, on te dit que il y a 231 façons de le faire. Et on peut combiner tout ça. Ça veut dire, tu prends, par exemple, une lettre de là, une lettre de là, de là. Après, tu l'interchanges. Après, tu l'interchanges encore une fois, Aleph est égal à Tav. Après, tu l'interchanges, t'as 231 façons de l'échanger. Et elles sont, comment on appelle ça? On peut les faire ensemble. Ça veut dire, je peux échanger 231 fois de 231 méthodes différentes.
C'est infini.
C'est infini.
Oui,
voilà, exactement. Autant le dire clairement. C'est infini. C'est infini. Je donne un exemple. Par exemple, on dit comme ça. On dit que, il y a des lettres qui s'interchangent. Je donne encore une méthode, mais je vais m'arrêter là.
Ça permet de créer des mots alors.
Bien sûr, ça permet de créer des mots.
Le mot, ça veut dire.
Des énergies. Des énergies. Je vais expliquer tout de suite. Donc par exemple, on dit par exemple que on peut interchanger les lettres qui sont du même ordre. Je vais expliquer ce que je veux dire. Par exemple, Aleph c'est 1, 10, Yud, c'est 10. Kouf, c'est 100. Quel est le point commun entre 1, 10 et 100 ? C'est que les 3 sont le début d'une unité. C'est-à-dire 1 est le début des unités, 10 est le début des dizaines, et 100 est le début des centaines. Donc Aleph, Yud et Kouf peuvent s'interchanger. Pareil, Bet, 2. Raf, 20. Resh, 200. Quel est le point commun entre ceux-là ? Le 2. C'est-à-dire qu'on est entré dans le deuxième cycle. Elles peuvent s'interchanger. Ça, c'est encore une autre méthode pour échanger. Ce que je veux dire par là, encore une fois, j'attends pas qu'on retienne tout. Parce que moi-même, pour vous le dire, je dois aller lire dans les livres que les commentaires que j'ai devant moi.
Mais là, il dit pas tout ça.
Il te dit, c'est bien sûr qu'il te le dit. Il te dit, tsirofim vechilofé otiyot, des combinaisons et des échanges de lettres, amid galgalot, beresh lamed alef shiharim. Qui peuvent s'interchanger par 231 portes. C'est ça, les 231 portes. 231 portes, c'est 231 façons. J'ai pas fini. Panim ve'achor. Panim ve'achor. À l'endroit et à l'envers. C'est-à-dire que là, je vais te tuer, là. C'est-à-dire que là, le mot, tu vois, tu cherches Even, Aleph, Bet, Noun. Tu peux chercher aussi Noun, Bet, Aleph. Ça marche aussi.
Ah
oui. Donc, là, on a compris qu'en vérité, on peut tout trouver dans le Père Égypte.
Ah oui, expliquer sans
mots. Mais non, c'est pas les science-fiction.
Celui qui est de mauvaise foi, il dirait, tu peux trouver tout ce que tu as envie de trouver.
Bah oui, tu as raison. Bah oui, tu as raison. Seulement, encore une fois, on n'a jamais vu qu'on a fait ça avec l'alphabet latin.
On peut le faire aussi.
On pourrait le faire.
Ce que tu peux faire avec le. Avec
mais ça n'a pas de valeur numérique.
D'abord, sache que tu as essayé, ça n'a pas marché. Oui, mais bon, c'est pas la question. Tu sais, toute l'histoire du code de la Torah. Il y a des charlatans dedans. Mais il y a du vrai dedans. D'accord ? Il y a des charlatans, mais il y a du vrai dedans aussi. Voilà, je le répète. Ils ont essayé de faire ça avec les lettres latines, ça n'a rien donné.
D'accord.
Pourquoi ? Je vais expliquer pourquoi.
Ce que tu dis là, c'est des axiomes. C'est-à-dire qu'on prend, on se dit que Aleph c'est 1 et que Shin c'est ou Resh c'est 200, je sais pas. Voilà, c'est les axiomes de base que l'on donne. C'est-à-dire
pourquoi ?
C'est-à-dire que à ça, on a rajouté un code. Et avec ce code. Et
pourquoi je donne cet axiome ? Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on dit justement que Dieu a créé le monde par la parole. Donc si on dit que Dieu a créé le monde et que Dieu crée le monde à chaque seconde par la parole, ça veut dire que tout est présent dans la parole d'Hachem. Et pas n'importe quelle parole, la parole qui a créé le monde. C'est tout. Donc ça s'arrête là. Donc, maintenant, à nous de comprendre comment ça se passe. Alors, les détails, on les aura pas. Mais au moins, on a un petit peu les méthodes. On sait par quelle méthode ça se passe. Et là, plus on développe la méthode et plus on comprend, je vous dis encore une fois, essayez de prendre... Je ne sais pas combien de lettres il y a de Rishon jusqu'au Shini de Bereshit, il faudrait calculer. Je crois qu'il y a 620 mots. Bon, avec un nombre de lettres, mais on arrive aux combinaisons. On avait essayé une fois dans un cours, le dernier qu'on avait fait comme ça, de faire les combinaisons avec l'ordinateur. On n'a même pas commencé à faire, je crois, deux ou trois passages. On est déjà bloqué.
Pourquoi ?
Parce que, non, ce n'est pas que tu es bloqué, c'est que tu arrives à des chiffres exponentiels que tu peux plus suivre. Ton ordinateur ne suit plus. Il ne suit plus, il n'arrive plus à suivre. Bien sûr.
L'ordinateur
a posé là. Bien sûr, parce que là on arrive à des chiffres extraordinaires.
Ah oui, 231 portes par le nombre de lettres et le nombre de valeurs.
Par le nombre de lettres, le nombre de valeurs, etc. C'est très loin du loto.
Avec 6 lettres, tu fais 7.
Regarde le loto, ce que tu fais avec combien. Le loto.
Avec 6 lettres.
D'accord ? Le loto, c'est même pas des lettres, c'est des chiffres.
Une fois deux,
combien de chiffres ?
4 fois 5 fois 6.
49 chiffres. Alors regarde ce que tu fais avec 49 chiffres.
14 millions de positions.
D'accord ?
14 millions.
22 par 2.
49 chiffres, c'est 14 millions.
1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6.
Regarde ce que tu fais juste avec.
Donc tu vois les
49 chiffres. C'est même pas des lettres.
Oui.
49 chiffres. D'accord ?
La ménage
des lettres et des lettres s'interchangent, etc. C'est à l'infini.
C'est pas 14 millions, c'est 14 millions de compositions parce qu'on considère pas l'ordre. Maintenant, si tu considères l'ordre, et ben alors donc tu les multiplies par le nombre d'ordres que tu vas avoir.
Oui, donc là c'est mort. Ah, c'est 14 millions sans compter l'ordre.
Oui, parce qu'en fait, le loto, la règle du loto, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Que tu coches le 49
en premier ou en dernier.
Ah oui, c'est oui, d'accord.
Oui.
Tu l'as ?
Oui.
C'est tout. Non, le tiercé, c'est différent, tu vois. Le tiercé, c'est les trois premiers. Les trois premiers, c'est l'ordre.
Le 1, le 2.
C'est
deux
pas,
et le 3.
Genre, tu as mis le 1 en 3 et il sort en premier, bah, c'est pas la même chose.
Il y a 14 millions de chances, il y a une chance sur 14.
49, à l'école, on l'apprenait, 49, c'est sans compter l'ordre, c'est 14 200 de composition, de résultats possibles. Ah, sans l'ordre. Si tu rajoutes l'ordre, bah tu rajoutes.
Par 49.
Non, c'est 16 chiffres. 6 chiffres ou 7 chiffres ?
6
chiffres. Non, le machin.
Et le complémentaire.
Le complémentaire, c'est 7 chiffres. Non, ça y est, toi. Ça suffit.
Non, mais il y a deux.
Non, l'étoile, tu le coches parce qu'il y a trois.
Oui, mais le
Donc ça veut dire que d'après ta logique, Miguel, d'après ta logique, Miguel. Donc alors si aux États-Unis ça se fait en France interdit. D'après ta logique, le jour il y a un tirage de 150 millions, tu investis 28 millions puis tu gagnes
quoi?
Le jour où il y a un tirage à 150 millions, d'accord,
bah,
tu investis 28 millions, tu le gagnes.
C'est ça la problématique non. aux États-Unis, c'est pour ça qu'ils l'ont, ils n'ont pas fait.
Voilà, en France, ils n'ont pas fait. Mais en France, ils n'ont pas fait.
Non, mais par exemple.
En France, il y a un mec qui l'a fait, ils l'ont fait.
C'est-à-dire, en France, ils ne peuvent pas le faire.
En fait.
Tiens, il a gagné.
En fait.
Je crois, oui.
En fait.
Non, je ne crois pas en
France. L'euro million, il te propose 150 millions d'euros. C'est maximum.
Oui, oui, oui.
Mais en réalité,
je sais pas de quelle manière, mais il y avait autant de combinaisons. Sur le gagner.
Tu ne peux pas lever. Tu ne peux pas lever l'argent pour gagner 150 millions.
Mais si, pourquoi ? Parce que tu dis qu'il y a 14 millions.
Non, parce que
14 millions fois 2 euros, ça fait 28 millions.
Non, mais d'accord, mais dans l'euro million, les règles elles sont complètement différentes.
Mais non, 14. Oui, 14
millions. Ah oui, 28 millions.
Voilà. Dans l'euro million, les règles elles sont complètement différentes.
À quel niveau ?
Là, on parle du loto. Loto, c'est.
6 puis ça.
C'est 7 chiffres.
Oui.
Au choix, sur 49 numéros.
Oui.
D'accord. Et l'euro million, c'est.
Non, ah oui, alors, c'est là, oui, d'accord.
L'euro million, c'est pas 7 sur 49.
Oui, t'as raison.
C'est 49 plus 10, tu racontes.
Non, mais on parle du loto normal.
Oui, c'est 15 ans, 15 ans.
Mais 49. Le loto normal.
Dans l'euro million, c'est pas l'ordre, il y a un ordre.
Non, non. L'euro million, on parlait uniquement des chances de la France. Maintenant, il y a les chances de la France, parce qu'en fait, pour gagner de l'argent, il faut être le seul au premier rang.
Oui.
Et en fait, ça, c'est toute l'Europe qui joue à l'euro million.
Oui, donc c'est un peu, oui. Ah oui, c'est un 3, c'est vrai.
Il y a des fois des comment ça s'appelle, des mecs
italiens, mais des oui, des
Espagnols,
des
Grecs, oui. Qui gagnent en Angleterre.
Alors, non,
oui, alors tu t'imagines que tu as trouvé la composition, Mazal Tov, mais.
Si on est 5, oui.
Et vous êtes 5, et bah, si tu as mis. T'es mort.
Si tu as mis quoi ?
Bon, il y a un gagnant.
Ah oui.
C'est très bon, il y a un seul gagnant.
Excuse-moi.
Bon, alors on y va.
Mais en Espagne, il n'y a pas les mêmes règles.
C'est bon, David.
Donc, il y a des multiples qui sont moins chers qu'on.
Ils sont partis dans les.
Je m'imaginais investir 28 millions pour gagner.
Alors, oui.
C'est j'étais déjà en train de chercher comment j'ai récupéré les 28.
Tu fais un appel au don.
Combien de pizza il faut vendre pour 28 millions ?
Ça, c'est calculé.
Bah, au minimum, 28 millions déjà.
C'est le chiffre, hein, d'après la virgule. Il en fait des tonnes de
chiffres. Donc oui, non, on a compris, donc c'est
bien.
Donc c'est bien, excuse-moi, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est vas-y, donc c'est-à-dire que je pense que.
Alors ça veut dire quoi ?
N'importe quel gros, n'importe qui, le bois, la terre, le fer, la mer, le poisson.
Donc ça veut dire en fait ce que je vais expliquer, c'est l'importance qu'il y a dans le nom qu'on a donné à une chose, Belachon à Kodesh, en hébreu, dans la langue sainte. Pourquoi ? En fait, le nom qu'on va donner en français est un nom de convention. Oui, parce qu'en français, on a décidé. Que ça s'appelle une table et ça s'appelle une chaise. On aurait pu décider le contraire. Que ça s'appelle un mur et ça s'appelle une table.
Ah oui.
Seulement une convention pour qu'on s'entende. On a décidé, voilà, on va appeler ça une table, ça va appeler une chaise. En hébreu, c'est pas comme ça. L'hébreu, c'est la seule langue dans laquelle. Mais je parle, quand je dis l'hébreu, c'est la langue sainte, pas l'hébreu moderne. L'hébreu, c'est la seule langue dans laquelle le nom qu'on va donner à la chose correspond à l'énergie divine qui fait vivre la chose.
Comme les animaux, le nom des animaux.
Exactement. C'est pour ça que lorsqu'on dit que Adam Harishon a donné les noms aux animaux,
c'est pas hasard.
C'est pas juste qu'il a dit, toi, tu t'appelles Tartampion, tu t'appelles, etc., Tarzan, etc. Non, pas du tout. C'est qu'Adam Harishon avait la chorma dans chaque animal de voir quelle est son origine divine. Et le Zohar s'arrête dessus. Par exemple, il a appelé le lion Arié, parce que Alev, Resh, Yud, He correspond à différentes lettres de la Parasha Bereshit. D'accord? Et la combinaison de lettres Alev, Resh, Yud, He correspond à une combinaison d'énergie de la Parasha Bereshit qui correspond exactement au lion. Il n'y a que ça qui correspond au lion.
Ah, il faut le voir, ça. Hein.
Et ça, Adam Harishon, il le savait. Donc il a appelé les animaux selon l'énergie divine qui fait vivre cet animal.
C'est avant ou après, c'est la faute.
On dit qu'Adam Harishon il sentait en lui toutes les âmes jusqu'à la fin des temps. Il avait une vision différente.
Qui dit qu'il a fauté?
Il a vu la fin du monde.
C'est comme ça que c'est écrit.
Ah bon, non, il a fait sûr qu'il a fauté.
Il a vu la fin du monde.
Il a fauté.
Adam Harishon, il a vu la fin du monde.
Il a fauté, bien sûr qu'il a fauté.
Non, mais il a vu la fin du monde.
Est-ce que la faute est négative?
Quoi?
Est-ce que la faute
Alors,
oui,
on va revenir à la source du mot.
C'est comme tout.
Un ordinateur assez
maintenant, si tu combines le nom du cheval,
c'est comme
le
tout.
Nom du jockey, le nom du
dans rapport, chaque chose,
le numéro du cheval, t'es mort.
Il y a l'information, et à savoir ce que tu fais avec l'information. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations, on a des mines d'informations dans le monde. On ne sait pas quoi en faire. À qui appartient le monde? Le monde appartient à ceux qui savent analyser l'information. Tout, on analyse l'information. On analyse tout ce que vous faites. Par exemple, vous allez, on appelle ça aujourd'hui la big data. C'est un exemple que je vous expliquais pour vous montrer à quel point on est très très loin de la Torah. Mais pour vous montrer à quel point les combinaisons sont sans fin. C'est quoi la big data? Par exemple, quand tu vas au supermarché, on essaye de créer des profils de personnes. Comment on va créer un profil de personne? D'où on sait que tu es le même que tu es revenu. Alors on va te donner une carte de fidélité. Cette carte de fidélité, on va dire que tu vas gagner des points et on va te donner avec ça des babioles. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? On a gagné que chaque fois que tu viens, on sait qui tu es. Et on arrive à te faire un profil. Mais c'est pourquoi alors? Pour que ça fasse donner des sous.
Non, si t'as revenu chez eux, pour un profil. Non, mais oui, bien sûr, non, si, vas-y.
Si
t'as revenu chez eux,
comme ça, on t'a fait un profil. Non, mais c'est. On t'a pas fliqué. On t'a pas fliqué. On va pas. Non, légalement, ils ont pas le droit normalement de dire que. Telle carte appartient à Serge Siboni, donc on va analyser Monsieur Serge Siboni. Normalement, ils doivent dissocier. Normalement, ils doivent dissocier. Ils vont faire un profil pour essayer de voir l'âge. Par rapport aux courses que tu achètes, on sait à peu près quel âge tu as.
Oui,
on sait si t'es un homme, si t'es une femme, d'accord. Quel âge tu as. Parce que selon ce que tu achètes, on sait quel âge tu as. D'accord. Selon que t'as 20 ans, t'as 30 ans, t'as 40 ans, t'achètes pas la même chose. Un jeune homme de 20 ans n'achète pas le même shampoing qu'un adulte de 40 ans. Il y a des statistiques dessus. Donc ça veut dire que... Hein? Non mais c'est un exemple. Oui, ce que je veux dire, c'est que les combinaisons sont infinies, mais on essaie de créer des profils.
D'accord.
Pourquoi?
Il y en a encore.
Parce qu'avec ça, on essaie de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Bon, on n'est pas venu pour parler de ça aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire simplement, c'est le fait que tout est écrit dans Bereshit. Il n'y a rien qui ne soit pas écrit dans Bereshit. Alors, d'un côté c'est complexe, mais d'un côté c'est rassurant. Tu dis qu'il n'y a rien qui n'est pas écrit dans Bereshit.
Alors pourquoi on a les autres parachutes?
Non, deux secondes. Les autres parachutes, c'est l'histoire du monde.
Mais d'accord, mais tout est écrit dans Bereshit.
Non, mais Bereshit, c'est l'origine.
Oui, mais.
Après, c'est le développement.
Après, il y a l'histoire.
Bon, après, il y a l'histoire.
Bereshit, c'est tout ce qui est matériel.
Aujourd'hui aussi, c'est le développement.
Oui, mais ça veut dire que.
Si demain tu veux... aussi, c'est le développement.
J'ai compris. Bereshit, si tu veux, c'est un peu l'ADN.
Oui.
Mais après, l'ADN, il va aller où? Ça, c'est pas écrit. Bereshit. Bereshit te dit, voilà l'énergie divine. Voilà, moi, je peux te dire l'énergie divine de ce verre. Maintenant, qu'est-ce que ce verre va devenir dans 50 ans, dans 20 ans? Je sais pas que cette énergie divine, elle va être confrontée à quoi? Elle va être confrontée à quelle autre énergie divine? Je sais pas ce que ça va donner. Mais moi, je peux te dire maintenant, ce verre, il provient de quelle adresse? Quelle origine?
Donc, il y a une certaine inertie, là.
Pourquoi une inertie?
Pas une inertie. Une certaine... Je crée des choses, et après, elle vit.
Non, attention. Elle continue à être générée à chaque seconde par la parole divine.
Je comprends.
Ça veut dire que dans ce verre, par exemple, comment on a fait ce verre? Je sais pas, il y a du pétrole. Qu'est-ce qu'il y a par le pétrole dans ce verre? Je sais pas moi.
Bon,
du plastique. C'est quoi? Oui, mais c'est quoi? Comment? Qu'est-ce qu'il y a par du pétrole?
Oui,
bon, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui ont contribué. Bah, chaque élément est là, il participe. Il y a une énergie dedans. Donc c'est une combinaison d'énergie. Et celle-là, c'est devant moi. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. Nous, l'être humain est capable seulement de transformer les choses. Ça veut dire, par exemple, j'avais du pétrole, j'en ai fait un verre. Ah, je peux faire. J'avais du blé, j'en ai fait un gâteau. Ça, je peux faire. Mais je peux pas créer du blé.
Ah oui, c'est impossible.
Parce qu'il n'y a que Hachem qui peut créer. Il n'y a que Hachem qui peut créer des nouveaux conduits d'énergie. Ce que l'être humain peut faire, il peut dire, bon, je prends ça, plus ça, plus ça. Et avec ça, je vais combiner et je vais former. Je vais former. Et on appelle ça, alors, c'est un abus de langage, mais en français, on appelle ça un créateur. On dit, c'est un grand créateur.
Oui.
Il a fait un grand... Mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a pris un morceau de tissu.
Il a
taillé.
Oui.
Il a coupé. Il a pas créé le tissu. Qu'est-ce qu'il a créé finalement? C'est l'idée qu'il a eue.
Une forme.
L'idée.
Forme.
Tu comprends? Mais la matière, il l'a pas créée. L'énergie, tu l'as pas créée.
Il y a
que Hachem qui peut créer l'énergie. Et c'est pas seulement qu'il a créé il y a 5079 ans. Non. Chaque seconde, il continue à la créer. D'accord? Ça, c'est un chapitre qui fait beaucoup réfléchir.
Il réécrit Bereshit à chaque seconde, alors.
Et quoi?
Il réécrit Bereshit à chaque
non,
seconde.
C'est que Bereshit est un impact qui s'arrête jamais. Mais c'est une très bonne question ce que tu poses. On verra dans le chapitre suivant, après les vacances, probablement. On verra cette notion que, comment on peut comprendre d'un autre côté, ça se renouvelle à chaque seconde, et d'un autre côté, c'est permanent. On a du mal à comprendre ça. Parce que pour moi, si tu renouvelles à chaque seconde, donc c'est pas permanent.
Ouais.
si c'est permanent, alors je me retire, ça tourne. On a du mal à comprendre comment ça fonctionne. Il va devoir nous expliquer ça, le Mourad Zaken. On a le temps, vous attachez. Ok. Donc, Vezeshmo, Asher, Kriulo, Belashana Kodesh. Donc, je disais, je parlais du nom à la Shana Kodesh. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est l'importance que chacun de nous doit avoir un prénom hébraïque. Et même des commentaires où le rabbi dit que c'est important qu'on se fasse appeler par notre nom hébraïque. Là, c'est un autre niveau. Je ne veux pas vous exiger ça maintenant, mais c'est important. Que, dans certains moments, en tout cas, qu'on se fasse appeler par le prénom hébraïque. Hein? C'est vrai? Je vois. Je vais vous dire quelque chose. Tu sais, des fois, tu essayes de convaincre quelqu'un pour mettre la tefiline, par exemple. Ça marche pas, ça arrive pas. Tu dis comment tu t'appelles? Il donne son prénom, tu dis non, ton prénom hébraïque. Tu l'appelles par son prénom hébraïque. Il se passe des choses.
Ah bon?
Oui? Bien sûr.
C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. C'est pas parce que tu t'es adressé à sa Neshama. Tu l'appelais Serge, tu l'appelais Serge. Tu l'appelles Abraham, c'est autre chose.
Ouais.
Si tu t'appelles Abraham maintenant, comment tu te sens que je t'appelle Abraham?
Hein?
Abraham. Moi, je vois tout de suite Abraham Avinu. C'est autre chose.
Bah oui, réfléchis.
Serge, je sais pas c'est qui Serge. Tu comprends?
On l'a connu, Serge.
Serge, c'était peut-être le nom, on t'a donné peut-être le nom d'un acteur, je sais pas qui.
C'est un gagnant. C'est un gagnant.
Non, à l'époque, il donnait les noms. Chez les Tunisiens, ils donnaient les noms par rapport aux acteurs ou par rapport au nom qui était à la mode, etc.
Wesley.
Mais je parle en nom hébraïque. Maintenant, t'as des noms d'hébreux modernes.
Oui.
Des hébreux modernes qui sont pas des noms bibliques.
Ah, d'accord.
Bon, c'est quelque chose.
C'est mieux.
Mais c'est pas un nom biblique. C'est-à-dire, c'est pas un nom juif. Tu comprends? Je sais pas. Je n'ai pas envie de donner de nom parce que après on va interpréter ce que je veux dire.
Oui, mais d'accord, donc ça, il faut vraiment...
C'est important d'avoir un prénom hébraïque, en tout cas au moins un prénom en hébreu.
Que ce soit bien,
Pourquoi? Parce que dans ton prénom, il y a ton ADN. Il y a ton prénom, c'est le conduit par lequel l'énergie divine va arriver jusqu'à toi. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand malheureusement, Dieu préserve, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, très graves. Qu'est-ce qu'on fait?
On
change le nom.
On rajoute.
Pourquoi tu changes le nom? Parce que le nom est le conduit divin par lequel l'énergie passe. Donc si par ce conduit il y a des problèmes, il est bouché, qu'est-ce qu'on fait? On fait une dérivation.
Alors qu'est-ce qu'on fait quand il y a un monsieur ou une dame qui, comment ça s'appelle? Il n'a jamais été élevé comme ça, donc il n'a jamais eu de prénom.
On lui donne le prénom Sefer Torah. J'ai déjà fait. Le prénom Sefer Torah. On le peigne comme ça et c'est son nom.
Michel,
mais
ben,
50 ans,
Michel,
c'est Moshe,
Alain, hein?
C'est Abraham.
Bon, ça se discute,
Albert,
ça.
Albert, c'est Abraham.
Ouais, mais c'est-à-dire que tous les mots qui vont...
Il y a des correspondances. Le rabbi nous a donné des correspondances. Il y a des correspondances. Mais c'est très sérieux. Et des fois aussi, des hommes qui ont des noms de femmes, en hébreu même, et des femmes qui ont des prénoms, les rabbinim les font changer. Parce que ça a un impact sur le mazal. Ça a un impact sur le mazal. Des fois, des gens qui ont un mazal bloqué, ils ne comprennent pas. Parce que des fois, le nom, il a un problème. C'est sérieux ce que je vous dis.
Quoi, je pense, par exemple, une femme qui s'appelle Abraham ou une entreprise?
Non. Il y a des noms comme ça qui sont un petit peu. Bon, je veux pas dire d'exemple parce
en
que.
En français ou en hébreu?
Ariel.
En hébreu. Quand je parle de l'hébreu, je parle ici.
Ariel.
Il y a des noms qui passent. Il y a des noms que des fois les rabbinim déconseillent fortement. Ce qu'ils vont te dire, ça c'est un prénom qui a été modifié. C'est pas bon, c'est pas pour un garçon, c'est pas pour une fille, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que le Lashon HaKodesh, c'est pas seulement un langage de convention. D'où est venu le mot Serge? D'où est venu le nom Serge? Qui est le premier à être appelé Serge? J'ai fait un.
C'est d'origine russe, c'est Sergei.
C'est russe?
Sergei Bobka.
Non. D'où c'est venu le nom?
Ah, je vais le rendre compte.
Qui est le premier, le Maboul, qui a appelé son fils Serge?
C'est Vincent, c'est sûr.
Non, mais d'où vient ce nom? D'où vient ce nom?
Salomon.
Je sais pas.
Salomon.
Hein?
Salomon.
Mais. On a voulu cacher notre identité.
D'où vient?
Hein?
D'où vient le mot Olivier?
Je parle de Olivier.
Hein?
Je
te connais.
Je sais.
Olivier.
C'est bien. D'où vient? Peut-être
la...
quelqu'un qui travaille dans les olives, je sais pas.
Ouais.
D'accord.
Marcel.
Etc.
Quelqu'un qui était dans un olive. Il est sûr.
Taxi.
Ça vient de ta bagnole.
Je te le respecte.
Tous les gens, c'est mon.
Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a des noms comme ça. C'est pas d'où ils viennent. C'est quelle est l'origine? Il correspond à rien. Il veut rien dire ce nom. C'est une nom de convention. C'est que les parents disent non, on va l'appeler comme ça. Ils auraient pu dire on l'appelle Tarzan. Ils ont dit on va l'appeler Serge. T'es dans moi, hein.
Tarzan, je dis pas.
Hein? Ah, non, mais qu'est-ce que ça change si t'avais appelé Serge ou Tarzan?
Ça
change quoi? T'aurais été quand même différent?
Popeye.
Non! Popeye. Alors que, quand on t'a donné un nom, le prénom qu'on t'a donné, a un impact, le prénom qu'on t'a donné.
Oui, mais ils disent, même pour les Français, ils étaient très sérieux, ils disent que le prénom a un impact sur la personne.
Ah ouais, ben nous aussi.
En français, je me rappelle.
Certainement, par rapport à l'historique, par rapport à ce qu'on veut.
Il propose Popeye pour toi.
Je vais raconter une histoire. Une fois, Rabumir Balanès. Une fois, Rabumir Balanès, il arrivait dans un endroit. Et lui, Rabumir Balanès, il avait une habitude de faire très attention au nom des gens. Au prénom, je parle. Le nom de famille, ça ne veut rien dire. Je parle du nom, du prénom. Il faisait attention au prénom des gens et il se comportait par rapport à ça. Il agissait par rapport à ça. Et une fois, Rabumir, il arrive dans un endroit. Et il y avait un monsieur qui s'appelait, je crois, Kida, enfin, un nom comme ça. Un nom. Anodin. Alors, Rabumir, il dit. Dès qu'ils arrivent, tout le monde lui dit, bon, ils arrivent, c'est une sorte d'auberge. Tout le monde lui dit, est-ce que tu n'as pas un coffre-fort pour me mettre nos affaires pour la nuit? Il leur a même dit, moi, je ne fais pas confiance, je garde mes affaires. Tout le monde lui dit, pourquoi? Il dit, je ne fais pas confiance. Son nom, il ne me fait pas confiance. Son nom. En général, on dit, ta tête, il ne me fait pas confiance, etc. Pas ouais. Bah, le nom.
Son nom, ouais.
D'accord, le nom. Ils ont tous donné l'argent. Et le lendemain, dès qu'ils ont donné l'argent, il dit, ah, non, mais jamais confié, mais jamais déposé d'argent. Rabemir, évidemment, il a gagné son argent. Alors, on dit, tu savais? Il lui a dit parce que son nom, il a sorti un passouk. Il a dit voilà, il s'appelle comme ça, il y a un passouk qui dit ça. Maintenant, les autres, ils ne croyaient pas. C'est pas qu'ils ne croyaient pas, c'est qu'ils n'étaient pas à ce niveau-là. C'est pas à ce niveau de comprendre du nom. Rabbi Meir était médaïek bishma. Il faisait attention au nom. Ça veut dire que pas tout le monde est capable d'être à ce niveau-là, de comprendre par rapport à un nom qui va arriver ici, va arriver ça. Il y a des charlatans, il y a beaucoup de charlatans dans le monde. On appelle les babas. D'accord. Il y a des vrais babas, mais il y a des babas. C'est... Des babas, des charlatans. D'accord.
Baba.
Le mot baba veut dire. Non, le mot baba à la base veut dire que c'est important, comme baba salé, etc.
Ah oui.
Mais après, il y a des gens qui lisent un peu la Kabbalah, qui apprennent un peu de mots, qui se font un peu baba. Il y a des sources, il y a des ouvrages qui te parlent, qui vont dire les noms, etc. Les gens, ils arrivent, ils disent ah, je vois pour toi un mazal, il faut que tu changes de nom tout de suite. Alors, ils vont dire ah, toi et ta femme, ça peut jamais marcher, c'est pas possible. Parce que toi, tu t'appelles comme ça, elle s'appelle comme ça, ils te font des trucs, ils te construisent des montagnes, des trous, ils te construisent. Il dit, tu sors ça, qui t'a sorti ça? Et là, une fois, il m'appelle, il me dit, j'étais chez un rave en Israël, il m'a dit que je dois divorcer de ma femme.
Un rave?
C'est ma boule, j'ai été. J'ai,
combien c'est... ça t'a coûté?
Attends, écoute-moi.
Un rave?
Véridique. D'accord? Je dois divorcer. Je dois divorcer. Je continue de divorcer. Il s'entendait très bien avec sa femme. Il dit, le rave, il a dit, avec le mazel qu'on a, si on se divorce pas, c'est des catastrophes, les enfants, ils vont mourir. Enfin, j'ai même pas envie de répéter ce que je dis. D'abord, évidemment, j'ai dit, ça n'existe pas, c'est pas joué comme ça, ça n'existe pas. Tu fais une enquête, tu vois que c'est un charlatan. Qui leur a pris quelques milliers d'euros au passage, d'accord? C'est un charlatan. Mais il n'y a pas de question dessus. Mais il n'y a pas de question dessus. Non, mais il y a une ambiance, c'est pas compris. Il y a une ambiance. Bon, c'est pour ça que je vous dis, faire attention quand il y a des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui profitent justement de cette notion de mystisme, d'accord? C'est mythique.
Oui, vous dites moi ça va, tu dis des choses, tu dis bon, ok, tu sors de mes.
Il y a des bêtises, il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Mais il y a des gens sérieux.
Oui, ça va.
D'accord. Il y a des tzadikim qui sont sérieux. Et les tzadikim, ils ont sur quoi se baser? Parce que les tzadikim, ils voient pas seulement la chose, ils voient l'énergie de la chose. Quand tu vois l'énergie divine de la chose, là, c'est autre chose. Et tu peux dire, écoute, tu t'appelles comme ça, hein, et par rapport au problème que tu as, il y a un problème. Parce que le nom que tu as, il veut dire ce message. Et t'as un problème qui veut dire ça, donc il y a un problème. Donc on va mettre ce nom, et ce nom il veut dire ça. Bon, ça très bien, ça c'est des choses qui sont... On peut comprendre, ça dit qu'il peut comprendre ça. Mais stam comme ça, le fait de faire des choses comme ça, non, ça marche pas. Lashon HaKodesh, la langue sainte. Alors, reprenons notre histoire. Dans la paracha Bereshit, il y a différentes catégories de mots. Il y a des mots qui sont écrits explicitement. Comme le mot or, lumière. Comme le mot chaya, animal. Comme le mot dagim, enfin dgehaya, boisson. Comme le mot par exemple non, even n'est pas écrit.
Even
n'est pas écrit. La lune n'est pas écrit, c'est écrit meorot, les luminaires. T'as raison. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Tout ce qui est écrit explicitement dans Bereshit, ça veut dire que c'est une énergie divine qui est très forte. Tout ce qui n'est pas écrit explicitement dans Bereshit, c'est l'énergie divine qui est moins forte. Pourquoi? Parce qu'elle a dû passer par des combinaisons, des transformateurs. C'est comme un transfo. Chaque fois que tu passes par un transfo, tu baisses d'intensité. Tu peux pas augmenter. On n'a jamais vu un transformateur qui augmente l'intensité. C'est pas possible. Parce que dès que tu passes par un transformateur, tu baisses l'intensité. Donc, imaginez maintenant qu'on a des transformateurs qui passent par 231 transformations. Tac, 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 tac. À la fin, tu vas arriver à une pierre qui est inerte. Pourquoi la lumière elle te montre plein d'énergie et la pierre elle est inerte? Parce que pour arriver à la Even, pour arriver à la pierre, on est passé par plusieurs transformations qui font que l'énergie divine qui arrive à la base, elle est infime. C'est pour ça que ça a l'air inerte. Par contre, l'énergie divine qu'il y a dans or, dans la lumière, est une énergie divine qui était de premier degré. Elle n'était pas encore avec la combinaison. Donc elle est très très forte. Tout ce qui est écrit explicitement dans Bereshit est très fort. Pour ça, dans Bereshit, tu reprenez la parole de Bereshit, vous voyez de quoi on parle. On te parle des choses, des mouvements du monde énormes. On te parle des astres, le mouvement des astres. On te parle de la séparation des eaux, les océans. C'est la puissance d'un océan.
On ne parle pas de la Bereshit en entier, on parle que des 10 paroles.
On parle que des 10 paroles, depuis le début de Bereshit jusqu'au Sheni. Ah, c'est tout. Jusqu'à Yamashishi.
Une montée.
Jusqu'à Yamashishi.
Ah là, il y a 12 et tout.
Même pas après Yamashishi, jusqu'à Yamashishi.
Là, il y a tout.
Tout est là. D'accord. Par exemple, dans la parasha Bereshit, on te parle de la mer. Vous avez vu l'immensité de la mer, la puissance de la mer? Incroyable la puissance de la mer. C'est-à-dire, tu peux amener les plus gros moteurs que tu veux, d'accord? Devant une mer qui est en furie, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. C'est une puissance qu'on peut même pas capter, on peut même pas comprendre. C'est une puissance, on peut même pas la mesurer. C'est énorme.
On a vu le tsunami.
Oui. Alors comment tu expliques ça? Comment tu expliques la différence entre l'eau et la pierre? Justement, parce que tout ce qui est écrit dans Bereshit a une puissance particulière. D'accord. Parce que c'est une énergie divine qu'Hachem a donnée directe. Comme le soleil. Voilà. Le soleil, or, c'est la lumière. La lumière est venue par le soleil.
C'est une puissance incroyable.
Incroyable. Tout ce qui est écrit dans Bereshit a une puissance extraordinaire, énorme.
Oui, un truc d'un mois, c'est dingue.
De quoi de
la peau. Ils ont dit la distance entre la Terre et le soleil. Rien que pour arriver jusqu'ici, le rayon de lumière, c'est une puissance inimaginable, une énergie quoi.
300 000 km secondes, je crois, non? Ou heure, je sais pas, c'est quoi la vitesse?
300 000 secondes.
300 000 km secondes, c'est ça?
300 000 secondes.
Ouais.
La vitesse de la lumière,
ouais. Ouais. Et ça s'arrête pas?
Oui, ça s'arrête pas, oui, un jour ça vient.
C'est un peu la création du monde, il s'est jamais arrêté le soleil.
Jusqu'à présent, mais il y a 6 000 ans.
Quoi?
On verra dans
13 ans, dans 1 milliard
d'années, sans plus. Non, mais comme tu le fais, tout a une durée en fait.
Oui, tu as raison. Bah pour l'instant, en tout cas
par exemple,
il n'est pas prévu qu'ils arrêtent. Hein.
Quand tu t'imagines, je ne sais pas si vous avez déjà vu un petit peu l'espace.
Mais quand
tu t'imagines la mise en orbite, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, au début, quand il a créé le monde, il n'y avait que le soleil qui éclairait le monde. On ne sait pas exactement comment ça se passait, mais voilà. Après, le quatrième jour, Hachem a tout mis en orbite. Quatrième jour de la création. Et quand on voit la précision, ça veut dire que la Terre, par exemple, était à une distance exacte du soleil. Si elle était un peu plus proche, elle aurait brûlé. Si elle était un peu plus loin, elle serait la glace, que de la glace.
Oui, d'accord. Tu vois les planètes avant, les planètes après.
Exactement. Voilà.
De...
Tu vois comment.
Avant la Terre, il n'y a pas de vie, la planète après la Terre, il n'y a pas de vie.
Non, mais tu vois, c'est où ça brûle, où c'est congelé. Et tu vois comment Hachem, il a mis la Terre pile à l'endroit où elle doit être.
En orbite,
il tourne, mais ça ne bouge pas.
Alors, il y a un truc qui va. On dit aussi qu'il y a plusieurs mondes avant nous.
Non, ça oui, ça change. Bon, c'est un autre débat, ça.
Alors, comment, s'il y a plusieurs mondes avant nous, ça veut dire qu'il y a des essais? Comment il y a des essais?
Non, c'est pas des essais. C'est un autre débat. Je ne peux pas rentrer dedans aujourd'hui. Voilà. Donc, en tout cas, ce que je voulais montrer par ici. Ce que je montrais par. Non, c'est une bonne question.
C'est l'histoire de papier, les 0 sur 20.
Bereshit s'arrête sur notre monde. C'est tout.
On est deux, t'inquiète.
Je dis notre monde, c'est même pas notre monde, notre univers. Parce que tout l'univers est écrit dans Bereshit. On a imaginé, là, tout l'univers, tout ce qu'il y a dans l'univers, est-ce qu'on est allé au bout de l'univers?
Non.
On
ne connaît pas.
Donc on ne connaît pas.
Si aujourd'hui, en 2019, on dit que l'univers, il est incommensurable, on ne peut pas le mesurer.
On ne peut même pas le mesurer.
Infini, oui, infini.
Très bien. Donc ça veut dire que maintenant, si je te dis maintenant que tout l'univers est écrit dans Bereshit.
Mazal tov.
Chaque détail de l'univers.
Étoiles, chaque planète.
Chaque planète, chaque espace, chaque détail, chaque parcelle.
Les petits martiens aussi, ils y sont.
Quoi?
Les petits martiens,
tout est écrit. C'est énorme. Ça, on comprend à quel point c'est infini. On comprend que justement, que ce que je viens de dire maintenant, c'est pile le contraire de la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, imaginons qu'il y a un Dieu. Parce que la théorie de l'évolution n'est pas forcément en contradiction avec Dieu. Elle n'est pas en contradiction. Elle te dit, il y a un élément premier. D'où il est venu? Un Big Bang. Qui a fait le Big Bang?
D'accord. On est en contradiction complète.
Non, oui. Pas spécialement. Non,
attends,
non,
non. Regarde, nous on dit que Bereshit.
Oui.
En fait, c'est 5500.
Bien sûr. Nous, eux, elle est contraire avec la Torah. Mais elle n'est pas contraire avec l'existence de Dieu. C'est-à-dire eux, celui qui croit à la théorie de l'évolution, qui est une aberration évidemment, mais et aujourd'hui elle est repoussée, mais n'est pas forcément un renégat. Il peut dire moi je crois en Dieu, mais je pense que Dieu a créé une matière première, après il y a eu Big Bang, etc. Ça donnait ça. Mais là, le Tanya t'explique que si ça marche pas comme ça, d'après la Torah, ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que d'après la Torah, Hachem il a créé un monde qui était prêt, et Hachem il a créé un monde, chaque détail de ce monde, et jusqu'aujourd'hui, chaque détail de ce monde est généré par Hachem. Et c'est pour ça que je terminerai avec ça. Il y a une question que souvent les rabbinis posent à la yeshiva. Il dit, imaginez que Dieu veut détruire le monde. Comment il s'y prend?
Il arrête de parler.
Exactement.
Voilà, c'est tout.
Il n'avait même pas besoin de détruire.
Ah oui, il arrête de tout casser.
Non, mais bon.
Il arrête de générer.
Oui.
C'est, alors, l'exemple qu'on pourrait donner, c'est pas précis comme exemple, mais c'est comme le courant. Imaginez qu'il n'a pas envie qu'il y ait du courant. Qu'est-ce qu'il fait?
Il coupe la
centrale. C'est fini. Tu me dis, mais je suis branché, j'ai ma prise, elle est branchée. On a coupé, il n'y a plus. Ouais. C'est fini. Il n'y a plus d'énergie. Donc, Akadosh Baruch continue à alimenter chaque seconde le monde. Et pas seulement alimenter, générer et créer.
Bon, okay.
Alors, juste deux secondes. Moi, je vous donne la suite. Ça, c'est chapitre 1. Je termine avec ça le mot. Donc, car la Torah et Dieu, c'est une seule chose. Donc, puisque la Torah et Dieu, c'est une seule chose, dans la Torah se trouve le code par lequel Hachem a tout créé. Et c'est pas que Hachem a utilisé la Torah. Hachem et la Torah, c'est une seule chose.
Il a écrit.
Non, c'est pas moi qui l'ai écrit. Hachem et la Torah, c'est une seule chose.
C'est quoi ça? C'est
un Zerah. Oui. Dieu et la Torah.
Dieu et la Torah, c'est
une seule chose. Hachem et la Torah, c'est une seule chose. Donc, la Torah, c'est Hachem et Hachem, c'est la Torah. C'est une seule chose, c'est un seul élément.
Je comprends pas.
Non, pourquoi tu comprends pas?
Deux noms, donc il y a deux choses.
Parce que je t'ai expliqué mon problème.
Si tu dis que
Hachem a utilisé la Torah pour créer le monde, ça veut dire qu'Hachem a besoin de quelque chose.
Non. C'est la Torah, c'est le monde qui a besoin de la Torah pour.
Très bien. Donc Hachem, évidemment Hachem, il a créé la Torah. Avant lui, il n'y avait pas la Torah. Avant la Torah, il y avait toujours
Hachem. Il y avait Hachem et la Torah. Parce que
bien sûr. Mais Hachem et la Torah, pour nous, forment une seule chose. C'est-à-dire, Hachem, c'est la Torah, c'est Hachem. Quand tu lis la Torah, c'est Hachem. Hachem, il te dit, Hachem s'exprime dedans. C'est lui. Il est dedans. Tu attrapes la Torah, tu attrapes Hachem. Extraordinaire. Donc on te dit, prends la part Hachem Bereshit, c'est Hachem.
On peut dire que la création n'a pas changé l'état de Dieu.
Ah, c'est une très bonne question.
Comment on peut dire ça? Parce que de toute façon, même si tu me dis que tout est écrit, tout est inscrit, tous les actes, lumière, Serge, David, moi, tout le monde, tout ça est écrit, mais on n'était pas là, mon Bereshit.
Okay. C'est une bonne question. Donc comment on peut dire que la création... C'est une très bonne question, on va toucher à cette question. Mais déjà, ce qu'on a compris, c'est au moins c'est important de comprendre... C'est important de comprendre que tout est écrit. Tout est écrit. Voilà. Ok. Donc, non, mais ça veut dire que c'est pas seulement que tout est écrit, c'est qu'il y a un conduit divin par lequel Dieu alimente chaque parcelle de ce monde à chaque instant. Il n'y a rien qui lui échappe.
On parle de Tim Soum, là.
Il n'y a rien. Donc déjà d'emblée, moi je vous dis, quand je vois un chapitre comme ça, d'un côté, je vous ai dit tout à l'heure, c'est complexe, d'un autre côté, c'est rassurant. Tu dis qu'il n'y a rien dans ta vie qui peut arriver qui n'a pas été généré à la seconde où je te parle par Hachem. Rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire que tout ce qui peut arriver a été généré à la seconde par Hachem. Donc déjà, je sais qu'il y a un maître à bord qui met les pions à chaque seconde. Ça, c'est pas qu'il a mis les pions, après, bon, bah, ça s'est passé comme ça s'est passé. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Parce que le hasard, c'est quoi le hasard? Le hasard, ça veut dire, bon, on a laissé les choses, après on laisse tourner.
Il
n'y a pas de hasard.
C'est pas ma
le hasard n'existe pas.
Je suis comme ça. Deuxième question.
Vas-y.
Si un homme ou une femme,
t'es taureau toi aussi?
Il est malheureux dans la vie qu'il vit.
Oui.
Il n'y a pas de hasard. C'est Hachem qui le veut.
Attention, je ne suis pas rentré dedans aujourd'hui. Là, je ne suis pas rentré dans les événements qui arrivent à l'homme. J'ai touché simplement aujourd'hui à l'énergie divine qui fait vivre l'homme. Après, ce que l'homme va en faire, la voie qu'il va suivre, c'est une autre question. Hachem a donné un capital d'énergie. Tu as donné un conduit. Tu vois, ça c'est ta voie. Alors toi, tu dis, j'ai pas envie de prendre cette voie, je prends une autre. Tu comprends? On lui a donné un train, et il veut pas prendre les rails, il est décidé de prendre le train d'aller sur l'autoroute. Bon, c'est compliqué.
Ah oui.
Tu comprends? On va essayer de dérouler comme on peut. Tu vas rouler, mais c'est pas fait pour, donc c'est compliqué. Il dit, mais on m'a dit que je peux. Non, mais on t'a dit d'aller sur les rails. T'as pas dit d'aller sur la route. Etc. Il prend une voiture et vous roulez sur les rails. Il dit, j'ai un gros bolide, je vais aller sur les rails. Je comprends, mais c'est les rails, c'est pas... Je vais voler. Un avion, il vole. Ta voiture, elle vole pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on t'a donné un programme une énergie divine. Après, la question, qu'est-ce que l'homme en fait ? C'est une bonne question, on va en parler après. C'est une très bonne question ce que tu poses, on va en parler au chapitre 2 en vérité, tout de suite. Parce que pour répondre à ta question, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que quelque part, à un moment, Dieu se retire ? Est-ce que quelque part, à un moment, il dit, bon, écoute, moi j'ai créé, maintenant, advienne qui pourra, quoi. Enfin,
a priori, non.
A priori, non. Alors, dans ce cas-là, s'il est toujours en train de gérer, comment l'erreur est possible ? Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que si je fais une erreur, c'est la chaîne qui fait l'erreur.
On rentre dans la question du bras.
Comment les malheurs sont possibles ?
Dans ce cas-là, ça veut dire que l'avéra. Ça veut dire que l'avéra.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Hachem s'est retiré un choix.
Ben, non. Non. Donc ça veut dire qu'Hachem a fait le choix.
Ah oui, c'est assez grave. Alors.
C'est compliqué.
Mais c'est ça que ça veut dire.
Bah oui, c'est compliqué. Ah oui,
parce que dans ce cas-là,
oui.
C'est ça que ça veut dire.
Puisque bon.
Comment ça s'appelle quand tu dis que l'écrivain, je me souviens de son nom, Wiesel, je crois.
Wiesel.
Il parle au rabbi, il lui demande au rabbi où il était Dieu pendant la Shoah. Et le rabbi lui dit où il n'était pas.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'il était là. Oui, oui, voilà. C'est vrai, mais bon, là c'est. Oui.
Bon, allez, on s'arrête là pour.